Radioscopie. Radioscopie,
Claude Lévi-Strauss,
Jacques Chancel. Claude Lévi-Strauss, on sait vos préoccupations, la passion que vous accordez à la science, à l'ethnologie, la tendresse que vous portez au monde des mythologies. Vous appartenez à la fameuse tribu de l'Académie française, vous étiez également de la tribu du Collège de France. Et aujourd'hui, en vous confiant à Didier Héribon, dans un livre qui sort aux éditions Odile Jacob, De près et de loin, vous acceptez le jeu de l'entretien approfondi sur votre itinéraire. Or, j'ai le souvenir de longues heures partagées ici à France Inter. Vous acceptez maintenant de vous confier, car il faut bien le reconnaître, jamais, s'il n'y avait eu ce livre, vous n'auriez écrit vos mémoires. Jamais.
Je ne les aurais jamais écrites, non, certainement, et je ne les écrirai jamais. Oui. Il y a ça d'abord une raison très simple, c'est que j'ai une mémoire détestable.
Non, je ne pense pas que la mémoire soit détestable. Je pense plutôt que cela vous ennuie de vous raconter. Alors, je ne sais pas si c'est une question de pudeur ou une question de vanité ou tout à fait autre chose, une question peut-être de tranquillité.
Mais disons que c'est une question de pudeur, très certainement. Et c'est aussi que je suis tout à fait perdu quand j'essaye de reconstituer mon passé. Des pans entiers m'échappent, je me trompe de date. Et donc, si vous voulez, si j'écrivais mes mémoires, j'aurais le sentiment de dire faux tout le temps.
Mais vous avez pris des notes tout au long de votre vie?
J'ai pris des notes sur les livres que je lisais, sur les peuples exotiques que je visitais. Mais sur mon existence, jamais.
Si c'était à refaire, cette vie, vous la conduiriez de la même manière? Vous avez quand même eu beaucoup de chance. Vous avez voyagé à travers le monde. Vous avez intensément vécu.
Surtout échappé à la mort pendant la guerre et l'occupation.
Oui. Ne parlons pas de la mort, parlons plutôt de la vie. Donc, vous la transformeriez, cette vie, maintenant que vous en savez un peu plus que beaucoup d'autres, puisque cette année appelle vos 80 ans?
Non, j'aurais, disons, le sentiment, mais enfin, si vous voulez, la question que vous me posez en suppose une autre que je dois à mon tour formuler. Si je recommence ma vie, est-ce que c'est en sachant que c'est pour la deuxième fois ou avec toujours la croyance que c'est la première?
La croyance que c'est la première? Parce qu'autrement, vous seriez totalement investi des expériences.
Alors probablement, je ferais autant de bêtises. Oui. Mais si je savais que c'était pour la deuxième fois, alors, qu'est-ce que je changerais? Qu'est-ce que je perfectionnerais? Quelle application je mettrais à des choses à quoi je n'ai guère prêté attention?
Mais ce serait encore l'ethnologie, ce serait la rencontre des tribus de nos mondes, ce serait l'approche des êtres humains et l'approche justement de toutes ces différences.
Alors, quand est-ce que je la recommence?
Tout de suite, allez.
Bon, alors je la recommence tout de suite. Oui. Dans un monde ethnologique, disons, qui n'a presque plus aucun rapport avec celui que j'ai connu. Il y a quelques semaines, on m'a envoyé du Canada, par curiosité, tous les formulaires qu'un ethnologue doit remplir quand il sollicite son admission sur le terrain dans une bande, c'est le terme officiel, dans une bande indigène. Alors c'est vraiment la caricature de la sécurité sociale et de toutes les paparazzis que nous faisons. Ça n'est plus ce que j'ai encore connu, ce que j'ai eu la grande chance de connaître, c'est-à-dire la grande aventure.
Donc l'aventure aujourd'hui, dans ce 20e siècle finissant, n'est plus possible? Moi, je pense
qu'il y a des... je ne veux pas exagérer. Elle est possible encore dans certains endroits, dans beaucoup moins nombreux. Mais enfin, il y a encore des chances. Seulement, il faut être jeune.
Vous pensez, Claude Lévi-Strauss, qu'il y a un territoire aujourd'hui que personne n'a jamais encore découvert?
Non.
Bon, non. Ça n'est pas possible.
Non.
On ne peut pas rêver d'une île, d'un endroit au milieu de la jungle, vraiment très très loin, dans les ailleurs. Bon, je suis persuadé que oui, c'est ce qui me fait rêver encore.
Non, écoutez, il peut exister des endroits, il en existe certainement, où on n'a pas beaucoup passé. Et où, par conséquent, on y retrouve une fraîcheur originelle. Mais qu'il soit totalement vierge, totalement inconnu, non, je crois qu'il n'en existe plus et que ceux qui se l'imaginent sont dupes.
Vous êtes, on le sait, un homme discret, avare de confidences personnelles et dont les écrits autobiographiques sont quand même rares. Mais si vous avez éprouvé le besoin d'un certain nombre de mises au point, c'est qu'il fallait vraiment parler. Parce qu'autrement, vous le savez, vous êtes de ceux qui vraiment pavoisent sur les sommets. Puisque lorsqu'on dit quels sont les grands de ce XXe siècle, vous êtes dans les premiers, que vous le vouliez ou non.
Ça prouve qu'il n'y en a pas beaucoup de très bons.
Non, ça vous me l'avez déjà dit. Mais quand même, vous êtes Claude Lévi-Strauss installé. Quels sont les trois grands savants? Et à tous les coups, vous êtes dans l'affaire. Alors, dans le même temps, vous n'aimiez pas les honneurs. Mais vous êtes à l'Académie française, vous avez été au Collège de France, vous êtes honoré partout. Donc, à la vérité, vous devez souffrir de tout cela.
C'est parce que j'ai vécu vieux, voilà tout.
Pas si vieux, en pleine forme, prêt à recommencer.
Oui, il suffit d'attendre. Ouais.
Alors l'aventure, quand même, cette aventure, vous la regrettez un tout petit peu peut-être. Vous regrettez, comme vous venez de le dire, de ne plus être jeune. Jeune pour vous, cela veut dire gambader, aller au bout du monde.
Oui, bien qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai encore fait des expériences assez pittoresques. Enfin, par exemple, en suivant des collègues japonais dans l'archipel d'Iryukyu, où... Vraiment, nous avons vécu, non pas naturellement comme on vit en Amazonie ou autre, mais à la dure. Et en voyant de très belles choses et en observant des mœurs extraordinairement passionnantes.
Mais aujourd'hui, il y a un pays que vous aimeriez bien revoir ou un pays que vous aimeriez bien découvrir. Vous pourriez partir demain matin. Je sais que vous le pouvez. Et si vous ne le faites pas, c'est que vous obéissez peut-être, et d'une manière tout à fait normale, à un peu de paresse.
Mais ne croyez pas ça, j'ai beaucoup voyagé ces 10 dernières années. J'ai été 5 fois au Japon, j'ai été au Mexique, j'ai été en Israël, j'ai été en Corée.
Plus pour donner des conférences que pour être totalement comme vous l'étiez autrefois sur le terrain.
Non, écoutez, peut-être. Les conférences, c'est le moyen, disons, de payer ses séjours.
Oui, oui.
Et... je n'accepte que quand il y en a, très peu. Et au contraire, que j'ai la possibilité ensuite, pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, de courir à travers le pays.
Vous avez l'impression d'avoir été trahi dans votre vie? Parce que c'est vrai, c'est un livre de mise au point à certains moments, et vous l'avez accepté pour cela. Quelles sont les choses qui vous ont peiné dans cet itinéraire quand même très très riche? Ce qui vous a fait mal?
Mal, c'est beaucoup dire. Mais enfin, le sentiment, disons que peut-être cette réputation dont vous me faisiez crédit un instant repose très souvent sur des faux-semblants, sur des malentendus, qu'en fait, ce dont on me fait honneur, ça n'est pas ce que je retiendrai moi-même. Mais enfin, ça, je veux dire, c'est le sort commun... d'un homme public à partir du moment où on écrit des livres, on les publie, on s'expose à ce qui ne soit pas compris de la façon qu'on souhaiterait soi-même les voir comprendre.
Alors dites-moi la seule chose qu'il faudrait retenir de vous, Claude Lévi-Strauss, la seule chose.
Ben, c'est que je suis quelqu'un qui a essayé de trouver le moyen tout au long d'une longue existence de ne pas trop m'ennuyer. Et que ce que j'ai fait, je l'ai fait, je ne dirais pas parce que c'était facile, parce que écrire c'est horriblement difficile et on écrit dans l'angoisse ou autre. Mais enfin, c'est le moyen de ne pas s'ennuyer.
Alors il y a chez vous l'itinéraire d'un chercheur, mais vous ne pensez pas que pour pouvoir le comparer, pour pouvoir mieux vous connaître, il faut aussi que l'on puisse connaître l'existence, le parcours de l'homme?
Vous savez, ça, c'est un vieux débat depuis Sainte-Beuve et Proust.
Oui. Et vous n'êtes pas d'accord avec Sainte-Beuve et avec Proust?
Ah si, je suis d'accord avec Proust, mais pas avec Sainte-Beuve.
Oui, mais Proust s'est raconté lui-même. Quoi? Donc il est passé par lui-même pour se raconter.
Non, il a recréé un personnage à partir de choses qui venaient de lui, à partir de choses qui venaient d'autres. Mais si vous voulez, j'ai rencontré dans ma vie quelques grands hommes, enfin, beaucoup plus grands que je n'oserais jamais prétendre être. Et... disons, le contact avec les hommes a toujours été une déception, enfin avec le sentiment que ce pourquoi je les admirais, le meilleur d'eux-mêmes, c'était dans leurs livres, c'était dans leurs tableaux, c'était dans leur musique qu'il fallait aller le chercher, et que la personne même, ça n'est qu'un résidu.
pas du tout dans leur vie personnelle, dans leur vie privée, dans leur vie quotidienne. Vous préfériez vous éblouir de ce que vous aviez lu, de ce que vous aviez entendu. La rencontre donc avec un homme
non,
est une rencontre
dire,
dangereuse.
Non plus que je les ai très bien connus, mais enfin, prenez Stravinsky que j'ai idolâtré pendant mon adolescence. Mmh. Quand j'étais conseiller culturel aux États-Unis, je l'ai connu. Bon, il était déjà aux approches de sa fin, mais... Quel sentiment ai-je eu, celui d'une vieille dame russe très frileuse et exclusivement préoccupée par ses petits problèmes personnels.
La musique n'avait plus grande affaire dans sa vie.
Mais je pense qu'elle avait grande affaire.
Mais pas lorsqu'il parlait avec vous ou lorsque vous le voyez.
Oui. Bon, c'est parce que j'étais là pour rendre service et que par conséquent il me disait en quoi je pouvais lui être utile.
Mais Claude Lévi-Strauss, quand même, dans une vie comme la vôtre, on peut retenir 4 ou 5 noms qui ont de l'importance. Qui ont pu illuminer un pan de l'existence. Vous les avez, ces quelques noms.
Vous voulez dire des...
De personnages.
Des grands morts ou des gens que
non.
j'ai connus.
Non, des gens que vous avez connus, ils sont peut-être vivants, ils sont peut-être morts. Hein. Mais des grands de ce XXe siècle.
Des gens que j'ai connus, incontestablement. Je répète plusieurs fois tout ce que je dois à Roman Jakobson, le linguiste russe, tout ce que je dois à Georges Dumézil.
Oui, bien sûr.
Mon grand prédécesseur dans les études mythologiques, les liens d'amitié que j'ai eus avec Merleau-Ponty, oui, bien sûr, ce sont des souvenirs très chers.
Quelle a été votre première découverte ? Parce qu'au départ, et vous étiez bien placé pour cela, il y a eu la grande exploration, et je pourrais parler, je crois, tout de suite de Paris, parce que c'est une bizarre peuplade que celle-là.
Mais vous savez, quand j'étais enfant, je montais des expéditions avec quelques camarades dont le but était de partir de chez nous ou d'un endroit convenu et puis de marcher tout droit aussi loin que le hasard ou nos forces pouvaient nous porter. Et mes premières expéditions ont été des expéditions parisiennes ou banlieusardes. Je me rappelle... des fins de voyage comme ça, dans les carrières de gypse de je ne sais plus où, ou bien à Chelles, ou tout à fait à l'est de Paris, où je m'imaginais pouvoir encore trouver des spécimens de silex taillé de la grande industrie chéléenne. Et quand je voyageais en autobus, qui avait encore des impériales, on pouvait rester dehors. Alors je m'installais toujours dans l'encoignure, de façon à voir à la fois la rue et le reflet de la rue dans la vitre. Et c'était un autre paysage complètement qui se créait selon que l'autobus s'éloignait de la chaussée ou s'en rapprochait.
Vous étiez déjà complètement dans votre métier, enfin ce qui est devenu ensuite votre métier, vous étiez ethnologue.
Je pense.
D'une manière complète.
Oui, oui, je pense que...
Donc c'est inné, vous l'avez reçu du ciel ce don.
Non, c'est pas reçu du ciel, mais enfin, ce goût de l'aventure, je l'ai toujours eu, certainement, dès l'enfance.
Si l'on regarde d'un peu plus près votre famille, on s'aperçoit qu'elle était très portée sur les arts, puisque votre père était peintre, deux de vos oncles l'étaient aussi, votre arrière-grand-père, Isaac Strauss, était chef d'orchestre des bals de la cour sous Louis-Philippe et Napoléon III, et collaborateur d'Offenbach, et très grand collectionneur. Et vous vous rappelez, Claude Lévi-Strauss, comme nous avions parlé de ce grand-père, chef d'orchestre, arrière-grand-père.
Je m'en rappelle très bien, vous avez même eu la gentillesse de jouer de sa musique.
Oui, oui. Enfin, tout de même, il y a des signes dans une vie. Il y a cet amour que vous avez de la musique, car vous êtes un passionné de musique. Et je pense aussi que vous auriez pu laisser aller à vos penchants, vous auriez pu être dessinateur, vous auriez pu être beaucoup de choses. Hein. Donc, les arts d'abord.
Écoutez, j'ai essayé beaucoup de choses, mais je n'étais bon à rien, voilà tout. Car en effet, j'ai dessiné, j'ai peint, j'ai essayé de jouer de la musique, j'ai même essayé d'en composer. Mais Dieu merci, j'avais... assez de bon sens pour m'apercevoir que ça ne me menait pas très loin.
Mais vous avez quand même fait de très bonnes études, quoi. Et vous pouvez remercier Marx de vous avoir un tout petit peu orienté vers la philosophie. Car au départ, c'est tout de même la philosophie qui a guidé vos premiers pas.
Oui, mais je dirais parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Au fond, je n'ai jamais mordu à la philosophie, au point que j'ai fait 2 années de professorat de philosophie, mais que je n'avais qu'une idée, c'était de m'en aller courir le monde.
Donc la philosophie ne vous a pas fait perdre du temps, mais ne vous a,
gagner. Je ne voudrais pas laisser dire ça un seul instant, j'en ai énormément profité, parce que toute ma culture est une culture philosophique.
Alors il y a aussi ses parents qui étaient des artistes, mais qui étaient dans le même temps tout à fait un croyant, et votre mère, fille de rabbin, avait quand même grandi dans une autre atmosphère. Alors, comment êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez essayé de rattraper tout cela? Je crois que vous n'avez jamais été inquiété par le sentiment religieux.
Non, jamais. Non, je n'ai jamais eu de préoccupations religieuses en ce qui me concerne. Et oui, bien sûr, je connais ce passé. Et j'ai vécu même dans un milieu très religieux, puisque pendant la Première Guerre mondiale, j'ai vécu chez mon grand-père, le rabbin, à Versailles.
Oui, lui était religieux.
Lui, il était très certain, donc c'était un saint homme.
Vous étiez intolérant à ce moment-là?
Très intolérant.
Intolérant de quelle manière?
Et je me rappelle que quand je me suis marié, mon premier mariage, c'était au lendemain de l'agrégation. Et juste avant de prendre mon premier poste, j'ai naturellement refusé un mariage religieux. Et en allant dire au revoir à mes grands-parents, mon grand-père a essayé subrepticement de nous donner sa bénédiction. C'est absolument comme si un serpent m'avait mordu. Enfin,
vous avez refusé.
En l'air, j'ai refusé. Et je le regrette beaucoup, j'en ai beaucoup de remords. Parce que Dieu sait que depuis, j'ai accompli des gestes religieux et dans un grand nombre de religions, sans me sentir du tout offensé ou gêné. Et j'ai peiné ce saint homme de façon tout à fait inutile, mais j'étais comme ça.
Il a pu vous le reprocher après? Vous en avez reparlé avec lui?
Non, il est mort d'ailleurs très rapidement après, oui.
Donc, un grand silence entre vous?
Oui.
Alors, après avoir enseigné l'histoire des religions, toutes sortes de religions, vous pouvez dire un peu quelle est l'histoire du monde de ce côté-là. Vous avez l'impression d'avoir changé et d'être cette fois-ci un peu plus tolérant qu'autrefois?
Oh, considérablement plus tolérant.
C'est l'âge qui vous a donné cette tolérance?
Non, c'est pas... l'âge me l'aurait donné si c'était nécessaire. Mais ça a été beaucoup plus le contact avec des croyances totalement différentes les unes des autres. Un métier d'ethnologue qui faisait que, quand je me trouvais dans telle ou telle population, eh bien, je devais avoir de grands égards, ne pas la choquer, accomplir certains gestes si c'était nécessaire. Et donc, si vous voulez, d'une part, de voir tout cela non pas comme un ennemi, comme un danger, mais comme des pratiques qui sont toutes relatives les unes aux autres et qui, d'autre part, ont un fond d'universalité. Et après tout, si je retrouve aussi bien dans des tribus du centre du Brésil que au Japon ou en Corée, que dans ma propre société, des attitudes religieuses, eh bien, c'est qu'elles correspondent à des besoins très profonds et que ces besoins, il est d'une part naturel de les respecter et passionnant de les étudier.
Mais vous ne pensez pas, Claude Lévi-Strauss, qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être recommencer toute une étude sur les religions? Et je pense en ce moment en particulier à tous les intégrismes. Bon, d'un côté, l'intégrisme, comme en Iran, avec Khomeini et ses troupes. Même d'une autre manière, ce qui vient de se dérouler en Israël, mais à Shéarim, c'est-à-dire le sentiment religieux, qui est vraiment très nettement en progrès et qui a bousculé un peu les dernières élections. Vous n'aimeriez pas recommencer un ethnologue, une étude de toutes ces religions et une étude de ces intolérances?
Vous savez, je suis ethnologue, c'est-à-dire que j'étudie de très petites populations très lointaines. Lorsqu'il s'agit de grandes civilisations et de grandes religions instituées, ça n'est plus tout à fait le rôle de l'ethnologue. Ce sont des domaines extraordinairement difficiles et compliqués. Et, d'autre part, dans ce que vous évoquez, qui est tout à fait réel, il n'y a pas que des attitudes religieuses, il y a des attitudes politiques qui s'y trouvent inextricablement mêlées.
Vous avez eu un maître spirituel, vous, dans votre jeunesse? Quelqu'un
non.
à qui vous accrochez? Non?
Non, non, je ne peux pas dire.
Si, Marx, d'une certaine manière.
Ah, parmi les grands morts, oui, bien oui. sûr. Alors, des quantités, oui, je oui. dirais, aussi bien dans la musique que dans la philosophie, que dans la littérature. Oui. Mais vivant, non, je ne crois pas.
S'il devait y avoir, pour vous, un rendez-vous raté, ce serait plutôt celui que vous avez eu avec la musique, parce que vous l'aimez, elle vous apporte tout, mais vous auriez été sans doute un excellent musicien, l'aimant comme vous l'aimez.
Non.
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 Mélomane seulement.
Parce que le rendez-vous manqué, il est biologique. C'est un gène ou quelques gènes qui me manquent.
Vous pensez que c'est dans les
gènes. Et ça, c'est pas rattrapable.
Que ça ne s'étudie pas. On l'a ou on ne l'a pas.
Pour la musique, je pense très certainement. Mmh. Probablement pour quelques autres choses, comme les mathématiques.
Mmh. Alors, vous êtes devenu marxiste et vous êtes devenu également militant. Avez-vous perdu du temps à militer?
Non. Je ne pense pas que j'ai perdu du temps. J'en ai fait probablement perdre à mes contemporains, puisque je les ai abusés et trompés dans la mesure de mes moyens, qui n'étaient d'ailleurs pas considérables. J'en ai pas perdu moi-même, parce que c'était des expériences extrêmement instructives.
Et aujourd'hui, comment le considérez-vous, ce moment-là? Et comment pourriez-vous être marxiste ou avoir encore en vous une petite graine de Marx?
Mais la graine de Marx que j'ai gardée, très certainement, c'est certains aspects de la pensée philosophique de Marx. Après tout, Marx a été un grand spécialiste de ce que nous appelons les sciences sociales et humaines, et il a apporté de grandes innovations méthodologiques et philosophiques dans ces domaines. Bon, je crois que politiquement, il s'est trompé, ou plus exactement, le monde dans lequel il réfléchissait n'est pas devenu celui qu'il croyait. Il a changé, mais ça, c'est l'histoire. L'histoire se trompe, ou plutôt nous trompe toujours. Et quand nous pensons de deux choses l'une, c'est toujours la troisième. Bien, le monde ne s'est pas réalisé de la façon que Marx imaginait qu'il se réaliserait.
Aujourd'hui, vous pourriez entrer dans un combat politique?
Non.
Non, pourquoi? Parce
pas.
Que vous refusez la politique? Vous trouvez que la politique trahit beaucoup d'aspirations?
Parce que ou bien je réagis, comme ça m'arrive d'ailleurs en fait, avec mon épiderme ou avec mes viscères, et je peux parfaitement me juger de la futilité de réactions de ce genre, de leur peu de substance, ou bien si je voulais le faire de façon solide et réfléchie, je devrais y consacrer ma vie, et j'aurais fait tout autre chose que ce que j'ai fait.
Claude Lévi-Strauss, le jour même où furent proclamés les résultats de l'agrégation, vous êtes allé dans une librairie spécialisée vous offrir un traité d'astrologie.
Et je l'ai toujours.
Et vous l'avez toujours.
Oui, je l'ai toujours.
Alors pourquoi êtes-vous allé vraiment dans cette librairie? Pourquoi pour ce traité d'astrologie? Parce qu'il y a une litanie de signes?
Je pense que c'était, disons, une gaminerie. Oui. Et dans un esprit d'insubordination, je me suis dit, on m'a embêté pendant un an ou pendant deux ans à faire apprendre un tas de choses que je n'avais pas envie d'apprendre, eh bien, je vais m'offrir un peu de fantaisie et essayer de connaître quelque chose dont j'ignore tout.
Oui. Mais vous y avez cru?
Non, non, j'ai jamais cru. J'ai jamais cru à l'astrologie. Mais elle est tout de même très intéressante, en ce sens que c'est un langage très bien construit. Et qu'à partir du moment où on accepte les prémices qui sont bien entendu totalement fausses, eh bien, ensuite, ça fonctionne très joliment. Enfin, il y a un côté esthétique, si vous voulez.
Alors, dans ce livre, vous parlez de Marx à différentes reprises, et vous dites d'ailleurs que la frontière entre sociologie et ethnologie était poreuse, et l'intérêt que vous portiez à Marx, justement, allait loin, puisque vous dites « Je vous avouerai qu'à ce moment-là, je me voyais très bien devenir le philosophe du Parti Socialiste. »
Il n'y a pas de doute.
Il n'y a pas de doute.
Oui, oui.
Alors disons, bon, ça c'est le passé. Aujourd'hui, oui. Vous pourriez être le philosophe du Parti Socialiste, qui est au pouvoir?
Non, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Parce que, si vous voulez, je ne crois plus à la réflexion politique.
Plus du tout.
Plus du tout.
Donc c'est un abandon. Donc c'est une déception.
Non, c'est pas une déception, ou si j'y ai eu une déception, elle remonte tellement loin, à mes premières années de Brésil, vers 1936, 37, 38, par là. Et tout ça, la page est tournée.
La page est vraiment tournée. Il y a très longtemps que vous avez changé de route.
Tout à fait.
Il y a un moment que nous avons partagé, c'était en 1981, lorsque je vous avais reçu pour toute une semaine à Radioscopie, vous m'aviez dit « Je suis devenu ethnologue, non pas par hasard ou nécessité, mais enfin, disons, pour des raisons impures. Tout simplement parce que ça m'embêtait d'être professeur de philosophie toute ma vie, parce que j'avais le goût des voyages, parce que j'avais un peu le goût de l'aventure. » Et c'est vrai.
Ben, je vous redirais exactement la même chose.
La même chose, vraiment.
Oui, oui.
Oui, mais le goût des voyages, vous l'avez toujours. Vous allez me dire, je voyage sans arrêt. L'aventure, vous pourriez la vivre encore, si l'on vous poussait un peu. En dehors des conférences que vous allez donner encore au bout du monde. Vous pourriez la revivre, cette aventure?
Si j'avais les moyens physiques, certainement.
Vous parlez sans arrêt des moyens physiques. Et vous revenez sans arrêt à votre âge, alors que lorsqu'on vous voit comme ça... vous paraissez épanoui et vous avez l'air un peu de bluffer, là, de vous faire plus malade que vous n'êtes. Vous n'êtes pas du tout
en pleine forme. Mais non, mais écoutez, je bluffe pas et je ne suis pas malade. Mais enfin, je sais très bien qu'à 80 ans, on ne fait plus ce qu'on faisait il y a 25 ans. Enfin, ça va de soi.
Alors, vous n'avez pas écrit des dizaines d'ouvrages, mais vous avez écrit, et on le sait, une somme approfondie de réflexions. On sait quels sont vos livres, et il faut quand même les rappeler. On doit parler de Triste Tropique, c'est vraiment l'œuvre de toute une vie, et qui est venue il y a 50 ans, et qui dure encore aujourd'hui.
Triste. Oui, donc c'est pas l'œuvre de toute une vie, j'étais encore assez jeune.
Non, parce que vous avez écrit pour toute une vie à ce moment-là. Oui. Et si, c'est quand même le plus grand tirage de tous vos livres, non?
Oh, de très loin, parce que les autres sont trop ennuyeux.
Alors, les autres, l'anthropologie structurale, la pensée sauvage, les mythologiques, important aussi. Quel est le livre que, si jamais on vous disait, on aimerait bien vous connaître, on aimerait bien vous lire, dites-nous simplement un livre et nous le lisons tout de suite. Alors, il faut lire lequel?
Ben, c'est une réponse, enfin, on me l'a souvent... m'a souvent posé la question et je me sens toujours totalement incapable de répondre parce que une fois que j'ai écrit un livre, il devient complètement étranger. C'est comme s'il avait été fait par quelqu'un d'autre. Et...
Mais à ce point-là, oui. Et vous installez à chaque fois une distance entre votre œuvre et vous-même qui est incroyable. Je crois que vous êtes le seul à vous comporter de cette manière-là, Claude Lévi-Strauss. Mais je l'avais déjà remarqué.
Mais je ne pense pas que je sois le seul. Il me semble que d'autres écrivains l'ont dit ou ont consenti à l'avouer.
Puis vous avez l'impression d'avoir assez écrit, d'avoir dit tout ce que vous aviez à dire. Alors, ou bien c'est de l'humilité, ou bien alors ça pourrait dire « mais j'ai tout dit, enfin, j'ai tout dit comme si tout... »
Non.
Hein? Ah si, non, ah, non. On pourrait le penser.
Non, non. Mais, enfin, pour redire des choses nouvelles, il faudrait... ben, probablement un effort intellectuel auquel un vieux cerveau n'est plus capable de se livrer.
Alors, pour qui avez-vous accepté de répondre à ce questionnaire et accepté de publier ce livre, je rappelle le titre, « De près et de loin » aux éditions Odile Jacob. Est-ce pour faire plaisir à Odile Jacob, qui a monté une collection tout à fait remarquable, avec de grands livres rigoureux?
Vous devez faire plaisir à Odile Jacob, que j'aime beaucoup, que
ou
j'ai
à Didier Ribon.
Étudiante, oui. Ben, ce serait une raison tout à fait suffisante.
Suffisante, parce qu'il il a fallu vous forcer, oui. J'imagine.
Non, il n'a pas fallu. Vous savez, Didier Ribon, que je connaissais un petit peu, enfin j'avais fait quelques interviews avec lui, mais avait publié des entretiens avec Dumézil. Et Dumézil était un homme que j'aimais, que j'admirais profondément. Et par un hasard singulier et malheureux, ces entretiens ont paru le lendemain de la mort de Dumézil. Et j'ai été très reconnaissant à Didier Ribon d'avoir conduit cette conversation, parce que grâce à lui, c'était la voix de Dumézil qui résonnait par-delà la tombe. Et je crois que c'est la raison profonde pour laquelle, quand il m'a proposé d'en faire autant, j'ai accepté.
Mais un jour, vous allez publier un livre qui serait votre pensée totale. Vous savez, comme on dit en peinture, votre catalogue raisonné.
Oui.
Où il y aurait tout. Vous allez le faire, ce livre?
Jamais, très certainement. Ça, il faut laisser ce plaisir aux étudiants de l'avenir qui seront en mal d'un sujet de thèse.
Alors, vous disiez tout à l'heure, Claude Lévi-Strauss, que vous aviez été conseiller culturel aux États-Unis, c'est vrai, et vous y avez rencontré et Sartre et Simone de Beauvoir. Ce sont de bons souvenirs pour vous?
Ce sont des bons souvenirs, mais vraiment des souvenirs extrêmement fugitifs. Mmh. Car quand Sartre est venu aux États-Unis, je vous assure, il était déjà suffisamment célèbre pour n'avoir aucun besoin des services culturels de l'ambassade. Mmh. Et je dirais que c'est plutôt par gentillesse qu'il a accepté de déjeuner un jour avec moi en tête-à-tête.
Vous savez, Claude Lévi-Strauss, vous pouvez être perfide, parce que je vais vous faire entendre ce que vous dites de Simone de Beauvoir. Elle est venue de son côté, un peu plus tard, mais elle non plus n'avait pas besoin des services culturels de l'ambassade. Comme je la connaissais un peu, nous avons repris contact, je l'ai invitée à déjeuner chez moi, je me rappelle très bien, mon fils venait de naître, je dis bonjour à votre fils, avec quelle répugnance, vous vous rappelez donc très bien, avec quelle répugnance elle regardait le berceau. Un bébé n'était vraiment pas la chose à lui montrer. Vous dites ça, vous savez, il suffit d'une petite phrase pour expliquer personnage de femme, hein.
Mais écoutez, j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour l'œuvre de Simone de Beauvoir. Mais enfin, le fait est qu'elle n'a jamais voulu avoir d'enfant et que probablement il y avait de bonnes raisons pour ça. Et c'était tellement criant à ce moment-là que je dois dire que... je vous disais tout à l'heure que j'ai une mauvaise mémoire, mais il y a comme ça des images très précises qui me sont restées. Et celle-là, je crois que je devais la livrer.
Vous avez de bons souvenirs de New York? C'était un épisode un peu lointain, dans de mauvaises conditions peut-être à ce moment-là.
Écoutez, ils étaient dans de mauvaises conditions parce que c'était la guerre, parce que je ne savais pas si je retournerais jamais en France. J'ignorais complètement ce que mes parents et mes proches étaient devenus.
Vous ne saviez rien d'eux?
J'avais pu communiquer jusqu'à l'occupation totale de la zone libre. Oui. À partir de ce moment-là, absolument plus rien du tout. Mais eux savaient quelque chose de moi. Parce que je parlais à la radio américaine, et un de mes amis avait reconnu ma voix et avait prévenu mes parents. Et donc, eux pouvaient entendre ma voix.
Ils étaient rassurés.
Et ils étaient eux-mêmes rassurés, mais enfin, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour moi, tandis qu'il y avait beaucoup lieu de s'inquiéter pour eux.
Oui.
Cela dit, j'ai adoré New York. Et j'ai vécu très certainement, avec les réserves que je viens de faire, les plus belles et en tout cas les plus riches années de ma vie. Parce qu'en réalité, tout ce que j'ai appris en ethnologie, tout ce que je sais, c'est là que je l'ai appris. Et New York est une ville qui était prodigieusement, qui est restée toujours, mais enfin, ça n'est tout de même plus le même New York. Quand je lisais récemment le livre de Tom Wolfe, Le bûcher des vanités, et que je me souviens des nuits que je passais à Harlem dans des petits bars, sans la plus petite inquiétude, c'était la ville la plus sûre du monde, enfin, absolument sûre. Déambuler de nuit n'importe où sans la moindre inquiétude, sans le moindre souci. Et puis c'était une ville d'une... C'est toujours d'une beauté inouïe.
Alors c'est vrai, on dit beaucoup de choses sur Harlem et sur ces nuits où on ne peut plus vraiment aller gaiement, où on peut penser qu'on va être inquiété. Moi je dois dire, lorsque je suis à Harlem, je n'ai jamais eu le moindre problème. J'ai même réalisé une émission complètement dans l'un des théâtres de Harlem. Je crois aussi que c'est dans la tête des gens qui croient qu'ils vont y avoir des problèmes. Je ne sais pas. Ou alors, c'est ma folie.
En tout cas, il ne se pose plus en termes de Harlem. Il se pose en termes de Manhattan en général, de Bronx,
partout,
de Brooklyn.
En termes de partout.
De partout.
En termes d'avenue Foch, hier ou avant-hier.
Oui, exactement. Exactement.
Cette femme qui était... parlant, discutant, et qui ont été agressés par trois hommes en cagoule, avenue Foch, c'est-à-dire vraiment au centre de Paris. Mais à ce moment-là, lorsque vous étiez à New York, vous étiez persuadé que vous ne reviendriez plus jamais en France?
Je n'étais pas du tout persuadé, j'espérais bien, mais enfin, il y avait un doute.
Oui. Vous n'étiez pas sûr?
Comment pouvait-on être sûr?
Alors, dans ce moment-là aussi, vous avez rencontré Camus, vous avez rencontré Jules Romain, vous avez même rencontré Gaston Berger, le père de Maurice Béjart. On connaît Maurice Béjart, on connaît très peu le philosophe Berger, quand même.
Ah, et qui pourtant a joué un très grand rôle, à la fois philosophique et dans la haute administration, puisqu'il a été directeur de l'enseignement supérieur.
Le Collège de France vous a apporté autant de plaisir que toutes vos aventures au bout du monde, à New York, au Brésil et ailleurs.
Et c'était d'un autre ordre. Mais de très grande satisfaction, pour autant que, comme vous savez, un professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chair, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. Alors ça, pour quelqu'un qui a le goût de l'exploration intellectuelle, c'était passionnant, parce que c'était tout de même l'incitation à se lancer chaque année sur un nouveau chantier.
Et pourtant, le Collège de France ne vous a pas accueilli comme ça tout de suite, les bras ouverts. Hein. Vous avez un tout petit peu échoué là-bas.
Ah, mais un tout petit peu, même, même beaucoup.
Non, mais j'aime beaucoup votre franchise dans ce livre. Parce que vous dites, après ce double échec, puisqu'en effet, il y a eu double échec, hein, j'étais convaincu que je ne ferais jamais ce qu'on appelle une carrière. Hein. J'ai rompu avec mon passé, reconstruit ma vie privée, et j'ai écrit Triste Tropique que je n'aurais jamais osé publier si j'avais été engagé dans une compétition quelconque pour une position universitaire.
Mais écoutez, c'est tellement vrai que quand Merleau-Ponty, qui était entré au collège très peu de temps après mes échecs, quelques années plus tard, m'a dit « Mais il faut repenser au collège, je veux que vous veniez m'y rejoindre », je lui ai répondu « Mais je suis en train d'écrire un livre et le jour où vous le regardez, vous ne penserez plus une seconde à me faire entrer au collège. »
Mais peut-être que cet échec vous a permis, comme vous le dites, de reconstruire votre vie privée, donc un échec qui est une victoire à la vérité, puisqu'elle vous a obligé à transformer tout votre monde.
Oui, oui, ben, la vie... Et j'ajoute, enfin, je dois ajouter tout de même, en hommage à Merleau-Ponty, que quand Triste Tropique apparut, il est revenu sur cette conversation et il m'a dit « Mais pourquoi est-ce que vous vous êtes imaginé une seconde que ça pourrait vous barrer la route ?» Bien au contraire.
Mais quel était le sentiment qui dominait lorsque vous avez écrit « Triste Tropique » et ce livre, vous l'avez écrit en 4 mois, en vous souvenant, dites-vous, de Macorlan ?
Oui, je l'ai écrit en 4 mois parce que j'avais des idées très puritaines et intolérantes à cette époque-là. Je considérais qu'on se devait à la science, qu'on ne devait faire que de la science, et que je commettais une sorte de péché en écrivant un livre, disons, plus léger. Et donc, il fallait faire aussi vite que possible pour me remettre aux choses sérieuses, d'où écrire en 4 mois. Et je me souvenais de Macorlan, bien sûr, j'ai adoré Macorlan pendant mon adolescence. J'ai même illustré Macorlan dans un exemplaire qui a existé, qui a disparu pendant la guerre.
Vous ne vous rappelez pas le titre ?
Je crois que c'était Sous la lumière froide.
Sous la lumière froide, oui. Donc un livre de Macorlan illustré par Claude Lévi-Strauss ?
Oui, oui, il a existé.
Oh, vraiment, si quelqu'un avait un livre comme celui-là, je serais heureux de l'accueillir.
Écoutez, probablement qu'un Allemand, là.
Ben alors, installons la chaîne et on le saura. Alors, je reviens un tout petit peu à Triste Tropique, parce que l'accueil a été très chaleureux dans les milieux littéraires, mais il l'a été beaucoup moins dans les milieux ethnologiques.
Enfin, je ne peux pas dire qu'en général. Mais enfin, à cette époque-là, j'étais très près de Paul Rivet, le fondateur du Musée de l'Homme. J'avais été sous-directeur du musée et pratiquement directeur en exercice pendant l'interrègne après la retraite de Rivet. Et Rivet recevait le dimanche après-midi et religieusement, j'allais tous les dimanches chez mon bon maître. Et le jour où apparut Triste Tropique, quand je lui ai envoyé un exemplaire, il m'a dit « Je ne reçois plus le dimanche ». Bien entendu, il recevait toujours.
Oui. C'est-à-dire, il vous fermait sa porte.
Il m'avait fermé sa porte.
Alors, la chose qui pouvait inquiéter dans votre livre, c'était quoi qui pouvait inquiéter ces milieux ? C'était un peu de jalousie qui s'en mêlait ?
Non, non, c'était absolument pas de la jalousie. C'était, disons, une certaine liberté prise envers notre discipline et ce à quoi nous avions consacré et continuions d'ailleurs de consacrer notre vie. C'était de ne pas regarder ça comme un sanctuaire, mais comme quelque chose vis-à-vis de quoi on devait prendre de temps à autre ses distances pour le juger.
C'est-à-dire qu'en regardant le monde, en regardant les différences, en regardant les peuples, vous ne vous conduisiez plus comme un universitaire, mais plutôt comme un homme qui apprend à réfléchir.
Qui apprend à réfléchir et qui est sensible à d'autres choses que les aspects scientifiques, à la beauté des paysages, au pittoresque de certaines situations. Et pour les décrire, là, je me souvenais de Macorlan qui avait fait ça admirablement.
Vous étiez très sensible à l'aspect littéraire d'une œuvre, parce que c'est vrai, vous êtes un scientifique. Mais lorsqu'on écrit, on peut faire passer un peu de littérature. Hein. C'est ce que vous avez fait.
Oui, j'étais toujours très sensible. Je veux dire que la seule matière où j'ai eu des succès assez réguliers pendant mes études secondaires, c'était la composition française.
Et la psychanalyse vous occupe encore un tout petit peu ?
Elle m'a jamais occupé.
Mais Freud est passé par là, quand même.
Ah bon, j'ai lu Freud très jeune. Enfin, j'étais encore en classe de philosophie. Et ça a été très important. Mais ici encore, c'est comme pour Marx. C'est le message philosophique et méthodologique qui a été important pour moi. Pas l'aspect politique dans un cas, thérapeutique dans l'autre. Je n'ai jamais cru, en fait, à la psychanalyse.
Oui, mais vous ne vous faisiez pas que des amis, parce que vous pouviez dire que la tentation qu'éprouvent trop d'ethnologues, de sociologues ou d'historiens qui, quand leurs interprétations tournent court, trouvent commode au lieu de les remettre en chantier, de combler les vides dans lesquels ils se trouvent avec la psychanalyse, ça voulait dire, bon, lorsqu'on n'a pas trouvé le vrai sens des choses, on mêle un peu de psychanalyse et on s'inquiète.
Oui, seulement là, vous savez, on pourrait le dire aussi bien dans l'autre sens, et dire que les psychanalystes auraient tort quand ils cherchent des explications psychanalytiques à faire brusquement des emprunts à la technologie pour bourrer les trous.
Mais qu'avez-vous souhaité connaître de plus que ce que vous avez vécu? Aujourd'hui, quand même, il y aurait d'autres éblouissements, peut-être, dans votre vie.
Oh, écoutez, j'aurais souhaité connaître les gens que j'ai connus à l'époque où je les ai connus, au 19e siècle, au 18e siècle, au 17e, au 16e siècle,
mais vous les
quand
avez
les
fréquentés.
Premiers voyageurs sont allés en Amérique.
Mais vous les avez fréquentés? On peut vivre...
C'était les restes.
On peut passer une soirée avec Mozart, avec Bach, avec Baudelaire...
Mais bien sûr.
Alors avec qui aimeriez-vous passer une soirée, demain?
Avec l'homme ou avec l'œuvre?
Avec l'homme. Un homme de n'importe quelle époque.
Avec l'homme, aucun.
Aucun?
Aucun.
Mais c'est triste.
Ah non, là je vous dirais avec un chien, avec un chat.
À ce point-là?
Oui.
Vous ne faites aucune confiance à l'homme, alors?
Je ne crois pas que... Vous ayez de grandes raisons de faire actuellement confiance à l'homme?
Parce qu'il a tout détruit? Il continue de le faire?
Bon, ça c'est une première raison.
Pourtant vous êtes sociable. Pourtant vous avez des fréquentations. Vous avez beaucoup d'amis?
Très peu.
Et ça n'est pas un manque?
Non, ça n'est pas un manque, parce que je pense que si je souhaitais en avoir, j'en aurais. Non, je suis solitaire de nature.
Sauf peut-être les jours de travail à l'Académie française. Parce que vous y allez, vous participez aux travaux.
Mais j'y vais assez régulièrement, oui. Je dois dire que le travail du dictionnaire est un travail qui, je ne dirais pas m'amuse, mais m'intéresse et m'apprend beaucoup de choses.
Alors en fin de livre, vous parlez de Rousseau et vous dites, Claude Lévi-Strauss, « Mon admiration pour Rousseau est d'abord esthétique. Quel style ?» Donc on revient à la littérature. « Il dit en 5 mots ce qui m'en demanderait 15. »
Et encore, là, je me flatte.
Et puis viennent toutes sortes de considérations si complexes que j'ai du mal à les débroussailler. Rousseau a, l'un des premiers, pressenti l'avenir des recherches ethnologiques et il a voulu rapprocher les sciences naturelles et la littérature, ce qui vous plaît alors là, ce que vous avez fait également.
Dans la modeste mesure de mes moyens, oui.
Vous continuez, un destin hors du commun a fait de Rousseau un observateur doté d'une sensibilité à vif. Dans toute son œuvre, il cherche l'union du sensible et de l'intelligible, ce que j'essaye moi-même de faire par d'autres voies et en prenant les choses par l'autre bout. Alors cela m'intéresse parce que vous dites « par le primat de l'intellect au lieu du sentiment ». Mais chez lui et chez moi, le besoin d'une réconciliation est le même. Comme si vous vous méfiez, Claude Lévi-Strauss, du sentiment.
Je ne me méfie pas du sentiment. Mais je sais bien que l'homme, ou en général n'importe quel être vivant, a un cerveau qui est constitué d'une certaine manière, qui exerce donc certaines contraintes sur sa vie, à la fois intellectuelle et affective. Et que si on ne tient pas compte de ces contraintes, on est incapable de rien comprendre. Et donc, l'idée que le sentiment puisse être premier, je veux dire par là, que le sentiment puisse nous envahir sans s'insérer dans un certain nombre de canalisations qui dépendent de notre structure nerveuse et cérébrale, ça me semble tout à fait illusoire. Et donc, il faut essayer de comprendre comment nous sommes une machine à penser et à sentir avant de glorifier le sentiment.
Alors, toute votre vie, vous avez exploré vraiment tous les domaines du savoir.
Non, non, non.
Beaucoup de domaines du savoir. Je sais bien que vous refusez le titre de savant, que vous méfiez de tous ces termes-là, et qu'en fait, vous êtes un tout petit peu marginal.
Ben, ça ne me mécontenterait pas.
Non, non, ça vous plairait même, oui, tout à fait. Hein. Et vous dites même, je suis un homme du 19e siècle. Que vous a-t-il fait le 20e siècle pour que, vraiment, vous montriez tellement d'épouvante? D'ailleurs, vous avez dit, je n'aime pas les hommes de ce siècle.
Mais écoutez, je le vois détruire tout ce à quoi je suis attaché. La nature, en tout premier lieu, la diversité des espèces, la diversité des cultures. Je sais très bien que tout ça appartient à une époque révolue. Alors je mets ça au 19e parce que je me dis que je serais probablement un peu moins dépaysé au 19e qui est plus près d'une autre et où toutes ces choses existaient encore. Sans ça, je vous dirais autant néolithique.
Mais l'époque, quand même, celle-ci, vous l'avez vécue. Aujourd'hui, en 1988, vous qui êtes né en 1908, vous aurez partagé un peu tous les soubresauts du siècle. Vous la connaissez bien et vous l'avez épousée complètement. Donc vous ne refusez pas quand même, et vous ne regrettez pas quand même d'avoir été de ce temps.
Mais je l'ai si peu épousé que je me suis entièrement consacré à étudier les témoins d'autres temps et d'autres mœurs.
Oui, mais en allant quand même un temps à New York, un temps au Brésil, et en y restant longtemps, puis partout ailleurs, en allant aujourd'hui encore au Japon, en faisant de grands voyages, et en rencontrant, que vous le vouliez ou non, des hommes et des femmes.
Mais vous savez, j'aimerais beaucoup mieux que ces voyages, au lieu de prendre quelques heures, me prennent quelques semaines, qui se fasse sur un bateau à voile et non pas dans un avion, et que je gagne à cela l'avantage d'aller vraiment ailleurs, et totalement.
Alors, un collègue américain vous a consacré un livre qui vous replace dans la tradition des symbolistes et d'autres auteurs du 19e siècle. Et vous dites, parlant du 19e siècle, Claude Lévi-Strauss, c'est un siècle où j'ai le sentiment que je ne serais pas trop dépaysé si une fée, par un coup de baguette magique, m'y transportait sans me faire perdre ma conscience d'homme du XXe siècle. C'est-à-dire que vous pouvez regarder les autres siècles, mais quand même de ce perchoir qu'est notre temps.
Parce que je voudrais cumuler tous les avantages, et d'être un homme du XXe siècle, ça me permet d'avoir le sentiment de tout ce qu'il y avait de précieux, d'exceptionnel dans les siècles antérieurs. Et si j'avais appartenu à ces siècles antérieurs, je ne m'en serais même pas rendu compte.
Claude Lévi-Strauss, j'aurais très envie de vous dire que vous êtes l'un des grands esprits de notre temps, mais vous allez me fusiller du regard, et peut-être même, si vous avez une arme, je risque de ne pas sortir de ce studio.
Je ne suis pas en uniforme, en costume d'académicien.
Vous la portez, votre épée, de temps en temps?
Bien sûr.
Oui. Pourtant, c'est une arme, l'épée.
Mais c'est un très bel objet, c'est une épée du XVIIIe siècle.
Très bien. Claude Lévi-Strauss, merci. Je rappelle ce livre qui vous fait mieux connaître, qui paraît aux éditions Odile Jacob, De près et de loin. Et merci à Didier Ribon qui a permis justement cette rencontre. Claude Lévi-Strauss, merci. À demain.
Merci à vous.